Radio Spirale. Aujourd'hui, c'est Journalistes qui vont à la guerre, un débat entre Daniel Lorrain, Céline Galipeau et Michel Ouimet, animé par Gilles Goujon. Le débat a eu lieu à l'occasion de la parution du livre de Daniel Lorrain, « Promets-moi que tu reviendras vivant », ces reporters qui vont à la guerre, à la librairie Olivieri, le 24 octobre 2010.
Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Mon nom est Gilles Goujon et je vais avoir le privilège d'animer cette rencontre publique avec l'auteur Daniel Lorrain, qui est ici au milieu, en présence de deux de ses victimes, Michel Ouimet de La Presse. Bonjour. Et Céline Galipeau de Radio-Canada. Bonjour. Je vais commencer par vous montrer quelque chose. Je me lève parce que c'est tout petit. Ça, c'est une douille de calibre 22. Au Québec, on tue des lapins ou des lièvres avec ça. Quand je suis débarqué en 89 en Roumanie, au moment où Ceausescu était en train de se faire zigouiller, autour de la maison de la radio et de la télévision à Bucarest, le couvert végétal, enfin le gazon, était tapissé d'environ 1 million de ces douilles. Parce qu'on avait voulu, en prenant le pouvoir, les opposants au régime s'étaient évidemment frottés aux gens, à la Securitat qui défendait Ceausescu. Parce que dans toutes les révolutions, dans toutes les rencontres de ce genre-là, la première chose qu'on veut faire, c'est contrôler le message, prendre le contrôle de la radio, de la télévision et des aéroports. Et donc, il y avait eu une formidable bagarre des gens qui se tiraient dessus. Et nous, les journalistes, on était là. Et à l'époque, on n'avait pas de couverture, de protection contre les balles comme nos collègues ont aujourd'hui. Et aussitôt qu'on voyait une caméra, une ciné-caméra, des journalistes, les gens de la Securitat tiraient sur nous. Alors, avec une petite douille comme ça, on pouvait se débarrasser d'un journaliste très facilement. Aujourd'hui, les balles sont plus grosses. On enlève les personnes. Il y a du terrorisme. Il y a des enlèvements. C'est plus, comme on dit dans le métier, c'est plus la même game. Alors, je trouve que ce livre, cet essai de Daniel Lorrain, arrive à point nommé. Parce que depuis septembre 2001, les choses ont changé. La vie des journalistes n'est plus la même. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce livre de Daniel Lorrain, c'est qu'on y retrouve les trois thèmes les plus importants de toute dramaturgie: l'amour, la vie, la mort. C'est un formidable livre d'amour, c'est un cri d'amour et en même temps de colère. Daniel a pris le temps de se promener un peu partout pour rencontrer une vingtaine de personnes qui ont comme métier de témoigner. Un journaliste, c'est essentiellement un témoin. C'est quelqu'un qui témoigne honnêtement de ce dont il est le témoin. C'est pas un acteur. Mais il y a des journalistes qui doivent prendre des risques plus grands que d'autres pour témoigner de ce qui se passe. Et très souvent, ils peuvent en revenir blessés, ne pas en revenir, ou alors en revenir vivant, se taire et vivre pendant des années avec des blessures intérieures. Alors, je voudrais, dans un premier temps, poser quelques questions à Daniel, qui va nous décrire ce livre que vous n'avez sans doute pas eu la chance de lire encore. Par la suite, Michel et puis ma collègue de Radio-Canada aussi pourront répondre à quelques questions pour que rapidement, je vous laisse la parole. Il y aura un micro qui sera disponible Si vous ne pouvez pas vous avancer, bien évidemment, vous poserez vos questions de loin. J'essaierai de les répéter pour ceux qui ne les ont pas comprises, mais l'idéal, ce serait de venir au micro. Alors, dans un premier temps, Daniel, à nous deux.
Je suis prête, je crois.
Je voudrais d'abord savoir, dans ton livre, vous m'excuserez, on est des collègues, on est des amis, donc on se tutoie. Dans ton livre, tu interpelles ton conjoint, le père de tes enfants, en disant « tu ne me feras pas ça encore ». Vous n'auriez pas pu régler ça entre vous. Pourquoi publier ce beau livre?
C'est justement parce que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas régler que j'ai décidé, dans un premier temps, d'aller rencontrer des journalistes de guerre et dans un deuxième temps, d'en faire un livre. Parce que, comme je le raconte dans le premier chapitre, mon chum, qui était déjà journaliste, qui couvrait l'information internationale, parfois en prenant des risques, au lendemain de septembre 2001, est devenu ce qu'on appelle un journaliste de guerre, ou en tout cas, il a été appelé à aller de plus en plus souvent dans des zones dangereuses, donc l'Afghanistan, l'Irak, le Darfour, etc. Et à partir du moment où la première fois qu'il est parti, donc en octobre 2001, qu'il est parti en Afghanistan. Ce que je raconte dans le premier chapitre, c'est que la veille de son départ, on est sur le balcon, côte à côte, et dans le fond, il y a une espèce de mur entre nous deux. Il y a lui qui est déjà parti dans sa tête, qui est déjà là-bas en Afghanistan, qui se dit « je vais là parce que il faut y aller, il faut aller parler de la guerre dans le monde » et ça prend des journalistes pour en témoigner. Et l'autre côté du mur, il y a moi, qui est celle qui reste à la maison avec les enfants, qui va s'inquiéter tout le temps, qui va penser que son chum, il est peut-être en train de se faire tuer ou d'être capturé. Rappelez-vous du contexte, au lendemain de septembre 2001, on était dans une espèce de folie, d'inquiétude totale, on savait pas ce qui allait se passer sur la planète. Donc moi, j'étais celle qui restait avec les enfants, celle qui avait peur, et j'étais celle qui était en colère. J'étais en colère parce que je comprenais pas qu'un père de famille parte dans un pays en guerre, aille risquer sa vie au nom de quoi? Et c'est à cause de cette colère, de cette inquiétude et de cette peine que j'ai décidé d'aller rencontrer des journalistes dont c'est le métier de prendre des risques pour essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Qu'est-ce que ça veut dire être dans un pays en guerre quand on est journaliste? Quelles sont les peurs qui les habitent? Quels sont les risques auxquels ils font face? Donc voilà un peu la genèse de mon ouvrage.
Dans... J'imagine, et je sais parce que c'est écrit aussi, que ton conjoint, Sylvain, a lu, a vu, a senti ta colère. C'est d'ailleurs rhapsodique parce qu'à la fin de chaque chapitre, elle revient et est toujours en colère. J'imagine que vous vous êtes parlé, mais moi, c'est la réaction de vos enfants qui m'intrigue aujourd'hui. Lui, il est dans le métier, toi, tu l'es un peu. Mais les enfants, ils ont quel âge vos enfants maintenant et comment ont-ils réagi à lire ce que maman a écrit au sujet de papa?
Alors maintenant, ils ont 22 et 27 ans, c'est des grands enfants. Comment ils ont réagi à la lecture? Ben, c'est drôle parce que ils habitent plus à la maison. Donc, quand ils viennent pour souper le dimanche, à chaque dimanche, c'était toujours « Bon, maman, t'es rendue où dans ton livre? Est-ce qu'on peut lire tel chapitre? Est-ce qu'on peut lire ça? » Puis c'est drôle parce que quand Sylvain était parti souvent à la guerre, on n'en parlait pas vraiment entre nous de ce qu'on ressentait. Puis je voulais pas non plus faire peur davantage aux enfants. Fait que c'était un petit peu quelque chose de tabou dont on parlait pas. Avec l'écriture du livre, donc le fait qu'ils lisent le livre et les chapitres, on s'est mis à parler de tout ça, de comment ils se sentaient, eux, pendant ce temps-là, comment moi je me sentais, puis eux, je pense aussi qu'ils ont découvert un peu leur mère là-dedans, comment moi je me sentais à l'époque, alors que je voulais tellement pas les inquiéter, donc j'en parlais pas. Donc je pense qu'ils ont redécouvert un peu leur mère, et ils ont redécouvert, mais on pourra leur demander, ils sont ici, ils ont redécouvert aussi... Ils ont redécouvert ce que c'est que le métier de reporter de guerre, le métier que leur père exerce, les risques qu'il prend à travers tous les témoignages des journalistes de guerre que j'ai rencontrés. Peut-être qu'ils ont pris conscience, même moi j'ai pris conscience davantage de tous les dangers qu'ils avaient affrontés, que je pensais même pas qu'ils avaient affrontés, à la lumière de tous les récits des journalistes de guerre, comme celui de Céline, de Michel. Je me disais, mon Dieu, c'est vrai, c'est effrayant, c'est encore pire que ce que je pensais, finalement, les risques qu'il a pris là-bas.
Si ce livre-là avait été fait il y a 20-25 ans, il n'y aurait eu que des hommes interviewés. Dans le livre, il y a près de la moitié des personnes interviewées qui sont des femmes qui couvrent la guerre. Ça, c'est une dimension exceptionnelle et nouvelle. Est-ce que les réponses que les hommes que tu as interviewés et que les femmes que tu as interviewées diffèrent selon que ce sont des femmes ou des hommes?
Écoute, à ma grande surprise, non. Je pensais que ce serait très différent. Bon, il y a des petites différences. Il y a par exemple une journaliste de guerre qui s'appelle Barbara Victor, qui est une Américaine qui a couvert la guerre au Liban dans les années 80, qui a été une des premières femmes reporters de guerre. Pour elle, justement, c'était très différent parce qu'elle me dit que pour pouvoir être reporter de guerre, elle n'a pas pu avoir de vie amoureuse et elle s'est sentie mauvaise mère vis-à-vis de ses enfants parce qu'elle était mère célibataire. Aujourd'hui, ça se pose beaucoup moins, en tout cas, je pense, pour les femmes. L'autre chose qu'elle me racontait qui peut avoir l'air un peu comique, c'est qu'elle disait que sur le terrain, quand elle avait peur, elle s'arrangeait toujours pour aller voir le plus gros, le plus dangereux, et elle se mettait sous son aile pour se faire protéger en disant « Je suis la pauvre petite, s'il vous plaît, protégez-moi ». Voyez? Donc, bon, c'est un comportement qu'on pourrait dire de femme un peu victime. Mais aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des femmes qui sont sur le terrain, d'abord, il y a quelqu'un qui s'appelle Sarah Daniel, qui est une grande journaliste au Nouvel Observateur en France, qui me disait, tu sais, mon chauffeur, il me disait, pour moi, vous êtes vraiment comme un homme, vous réagissez comme un homme. Alors, une femme ou un homme reporter, mais vous pourrez répondre, mesdames, quand elles sont sur le terrain, elles sont là pour faire le même métier que les hommes, et elles le font généralement de la même façon. C'est sûr qu'il y a des reporters de guerre, la plupart du temps des hommes, qui vont couvrir davantage ce qu'on appelle le bang-bang, ou les attaques, ou les gars qui font des attaques, etc. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, hommes et femmes, me disent que ce qui leur importe d'abord avant tout, ce sont les humains derrière la guerre. Et donc, il y a cette approche humaine que j'ai sentie autant chez les reporters hommes que chez les reporters femmes.
Justement, venons-en à Céline et à Michel. Céline, dans les réponses que tu as données à Daniel lors dans l'entrevue, page 113, tu dis « Le pire, ce n'est pas les morts, mais les survivants ». Les gens qui continuent à vivre dans ce pays et qui ne sont pas morts parce que la mort les a épargnés. Comment peux-tu expliquer aux gens, comment on peut, comme journaliste, avoir le chaud et le froid, s'approcher des gens, témoigner de ce qu'ils vivent, la mort ou la vie ou les blessures, et ensuite repartir, faire le topo et rentrer chez soi. Comment on vit ça?
C'est probablement une des choses les plus difficiles, en fait, pour tous les reporters qui se retrouvent dans des situations comme celle-là. Mais j'imagine que c'est un peu la même chose ici aussi. Je veux dire, quelle que soit l'histoire qu'on couvre, à un moment donné, on se rapproche des gens, on essaie de comprendre ce qu'ils vivent pour pouvoir témoigner de ce qu'ils vivent. Et après, ben, nous, on repart, on va vivre autre chose, on passe à autre chose. C'est plus exacerbé, je dirais, comme toutes les situations sont plus intenses dans une zone de conflit, parce que dans une zone de conflit, il y a des gens qui meurent, ceux qui restent sont souvent blessés, ceux qu'on rencontre sont souvent des gens qui ont une histoire insoutenable souvent, et qui nous racontent leur histoire et pour qu'on puisse témoigner. En fait, ils le font assez... moi, j'ai toujours été émerveillée par ça, parce que les gens nous parlent assez facilement parce qu'ils ont l'impression que peut-être que s'ils nous parlent, il y a peut-être un peu d'espoir, on va raconter leur histoire, ça va faire réagir quelqu'un très très loin qui va peut-être faire cesser ça. Donc on leur parle, on se rapproche d'eux. Et puis après, ben, on repart et on essaye. Moi, ce que je trouvais le plus difficile souvent, c'est quand je revenais d'une journée de tournage. Et puis là, j'essayais d'écrire de façon à être à la hauteur de ce qu'on m'avait dit, de ce qu'on m'avait confié, de façon à ne pas décevoir ces gens-là. Et puis ensuite, ben, c'est vrai, on repart, on arrive dans notre vie. Je ne sais pas, mettons, je retournais à Paris dans mon appartement. Puis c'est là que c'est là que tout devient plus compliqué, en fait. Je m'en suis rendu compte beaucoup en lisant le livre de Daniel, parce qu'avant, je ne voulais pas m'en rendre compte, je crois. Mais c'est là que tout devient très compliqué, parce qu'on revient, on a vu des choses, on a senti des choses, on sait qu'il y a des gens qui souffrent. Et nous, on revient dans une espèce de petit confort douillet, avec des petits problèmes de la vie, ici, de la vie occidentale, alors que ça n'a rien à voir avec la vie, en fait. Pour la majorité des gens, ça n'a rien à voir avec la vie, mais nous, c'est je veux tel lit, je veux telle chose, j'ai besoin d'un nouveau vêtement, n'importe quoi qui fait qu'on devient très intolérant, je crois. On devient, il y a quelque chose en nous qui est très fâché. Il y a une espèce de colère qu'on a. Ben, Daniel le raconte très bien, c'est-à-dire qu'on se sent très en colère contre les gens qu'on aime, malheureusement, parce que souvent, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on a vécu. Donc c'est double, c'est à la fois le fait de laisser des gens qu'on a appris à connaître, qu'on apprécie et pour qui on a souvent très peur parce qu'on ne sait pas ce qui va leur arriver. Et en même temps, il y a ce retour à la vie normale qui est très difficile à faire. Donc je pense que la réaction, elle se fait de deux façons. Je ne sais pas, c'est intense parce qu'il faut juste que je vous dise, c'est un livre que j'ai lu en quelques heures ça a été comme un coup de poing pour moi. Hein. Ah là, oui. Depuis, je ne l'ai pas rouvert. Je l'ai lu d'une traite. J'ai pleuré, j'ai été touchée, émue, fâchée. Je courais à mon conjoint, puis je lui disais, vraiment, je t'ai fait vivre des choses comme ça.
Justement, ça, c'est intéressant.
Et j'ai beaucoup de mal à en parler parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée.
Alors, on va en parler. C'est que le livre est écrit par une femme dont le mari s'en va. Vous êtes deux femmes qui, vous, sur le terrain, avez laissé vos conjoints derrière. Croyez-vous que la réaction, par exemple, que ton mari Jacques a réagi de la manière dont Daniel a pu réagir quand toi t'étais sur le terrain, même si Jacques est journaliste et sait ce que tu t'en vas faire? Est-ce qu'il t'en a déjà parlé?
Non, on n'en a jamais parlé.
Un vrai gars.
Pas seulement ça, mais je pense pas qu'il se sentait. Je pense pas qu'il se sentait vraiment le droit même d'en parler, parce que c'est pas quelque chose qu'on discutait. Il faut dire que la différence, c'est que moi j'étais correspondante à l'étranger, donc c'était ma vie était faite comme ça, de toutes sortes d'affectations, de tout ça. Mais on était, j'avais beaucoup de collègues qui partaient en même temps couvrir des zones comme celle-là, puis c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie, donc je crois que jamais Jacques aurait senti qu'il avait vraiment le droit de me dire « je crois que tu devrais pas partir, je crois que cette fois-ci, tu devrais pas partir ». Une fois, il m'a dit qu'il en avait assez, et cette fois-là, je suis revenue à Montréal. Ça a été la seule fois où il m'en a jamais parlé. J'étais avec Sylvain Desjardins.
Oui. Et qui est le conjoint de...
Et c'est là que j'ai décidé de rentrer. Donc, non, c'est pas quelque chose qu'on discutait, je sais pas,
Michel
chez vous.
Toi.
Ben moi, mon chum n'est pas journaliste, il est ici dans la salle. Et puis, j'ai toujours été un peu... En fait, je me suis toujours mis un peu la tête dans le sable. Et puis, moi aussi, en lisant le livre de Daniel, j'ai vu l'autre côté de la médaille. J'ai plus compris, et mon chum, et ma fille. Mais pour moi, c'était toujours non négociable. Je partais, point final, il n'y avait qu'à vivre avec ça. C'est un réflexe égoïste, mais un réflexe de survie aussi. Et le fait que mon chum ne soit pas journaliste, ça aidait peut-être. Alors, on a passé à travers toutes sortes de phases, comme, je sais, la guerre au Liban en 2006. On m'a dit le matin que je partais au Liban. Le soir, j'étais dans l'avion. J'étais tellement stressée, j'avais tellement de choses à faire que, bon, je l'ai su à 9h. Puis à 1h30, j'ai trouvé comme 2 minutes pour appeler mon chum. J'ai dit, bon, ben écoute, je m'en vais au Liban ce soir. Et il était tellement fâché. Ça a été comme... Il y avait comme un crescendo. Puis en 2006, quand je lui ai fait ce coup-là, là, il était vraiment fâché. Il est venu me reconduire, mais il m'a dompé là, à l'aéroport, avec mes valises. Et on s'est réconciliés par courriel. Mais après ça, il a arrêté d'essayer de me dire, de négocier mes départs. Je dirais qu'il s'est résigné. Et puis, il a dit, bon, OK, ça fait partie de ma blonde et c'est comme ça. Et puis, OK, je suis résignée. Mais on ne fait pas le même métier. Mais c'est ça. Alors, il y a eu un crescendo jusqu'en 2006. Puis après ça, ben c'est ça. Mais je sais qu'une fois, il a rencontré mes patrons, mon patron, par exemple. Je le voyais parler à mon patron. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Et il a dit à mon patron, qui était directeur d'information de la presse, bon, OK, là, maintenant, tu lâches ma blonde. Alors, je... En tout cas, ben, bref, on ne vit pas dans le même univers. Là.
Oui.
Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, ça, en même temps, c'est notre métier. Alors, comme dit Michel, ça devient très, très intense. Toi, tu disais, on est déjà parti. Oui, on est déjà parti. Dès l'instant où on sait qu'on doit partir, mais on est beaucoup dans les préparatifs, dans l'organisation. Puis c'est beaucoup, beaucoup d'organisation aussi pour partir, parce que ben, maintenant, ça devient une grosse machine, partir, entre guillemets, à la guerre. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, à préparer et tout ça. Puis le temps est très court. Puis c'est comme une espèce de machine qui part. Puis on n'est pas dans la réflexion à savoir est-ce qu'on devrait ou est-ce qu'on devrait pas. On est plus dans les visas, le fixer, les gilets pare-balles, tout ce que ça prend pour partir et tout. Et après ça, la réflexion, elle ne se fait pas. Après, c'est je pars, peux-tu m'amener à l'aéroport? C'est ça. C'est triste à dire. C'est terrible, en fait, à dire. Puis c'est vraiment ça qu'on réalise quand on lit ce livre-là, que c'est terriblement égoïste le travail qu'on fait. Parce qu'on pense à notre survie, à notre métier, puis on oublie parfois qu'il y a des gens qui restent en arrière. Puis ça affecte tout le monde,
mais
en fait, dans la famille.
C'est pas juste le fait que par exemple, l'autre part et égoïstement ne pense qu'à ses affaires à lui, à son reportage. C'est le fait que il s'en va dans la guerre, puis on a peur qu'il meure, puis plus le temps qu'il est parti, on ne sait pas s'il n'est pas en train de se faire prendre en otage, je ne sais pas si c'est moi qui... Tu sais, à un moment donné, je me dis, c'est peut-être moi qui m'en fais trop, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, tu ne sais pas, tu vois des images à la télé où il y a des explosions, où les gens meurent, tu dis, mon chum
non,
est
c'est
là.
C'est pas si pire que ça.
Ouais, c'est ça, on dit toujours, c'est pire vu de loin, mais quand même, tu vois, je veux dire, nous, on est là dans notre salon, puis on voit ce qui se passe là-bas, puis je veux dire, quand notre chum n'est pas en onde, puis qu'il n'a pas pris la peine, ou qu'il a oublié de téléphoner, ou qu'il ne peut pas téléphoner, on ne sait pas en ce moment même qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est surtout ça que je trouvais difficile, plus que le fait que égoïstement, il n'ait pas pensé aux autres ou qu'il veuille faire sa vie. Bon, ça va, on peut faire ça chacun de notre côté. J'ai pas de problème avec ça.
Mais il y a une différence maintenant entre aujourd'hui et ce qu'il y avait avant 1990. J'ai couvert de 74 à 80, jusqu'à maintenant, beaucoup de conflits aussi. Mais jusqu'en 90, l'Internet n'existait pas. Ou n'était pas accessible. Et on n'avait pas les téléphones cellulaires. Donc, si je peux me permettre juste une petite expérience personnelle, quand je partais, ma femme et nos trois filles savaient que pendant 2 ou 3 semaines, elles n'auraient pas de nouvelles. Je me souviens d'être débarqué à Bucarest en 89, et puis il fallait, en débarquant, la première chose à faire, c'était de réserver une ligne téléphonique pour le Canada, puis il nous disait très bien, c'est dans 8 jours, le jeudi après-midi, à 14h30, à l'hôtel intercontinental, vous avez 10 minutes. Et c'était ça. Et si tu n'étais pas là au moment où ça se passait, tu ne pouvais pas téléphoner. Donc, ta famille savait que tu donnerais pas de nouvelles. Évidemment, il y avait une angoisse. Mais le fait que maintenant, on puisse si facilement communiquer avec les téléphones satellitaires, avec nos téléphones cellulaires, est-ce que ça vient pas ajouter à l'angoisse de ne pas en avoir de nouvelles? Parce que parfois, on peut pas en avoir. Je sais pas comment tu le...
Bien, c'est sûr. On est toujours pendu au bout du téléphone. Comment ça se fait qu'il m'appelle pas? Et si tu passais quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Mais bon, quand même si les communications sont plus faciles, le téléphone satellitaire et tout ça, ça marchait pas dans toutes les zones, c'était compliqué, puis ça coûte super cher, donc, je veux dire, Sylvain essayait quand même de limiter, puis des fois, on pouvait s'envoyer des courriels, mais d'autres fois, Internet marchait pas à l'autre bout du monde, donc, c'est pas toujours sûr non plus, les communications, mais ce que je trouvais difficile, moi, c'est que, il disait toujours, tout va bien, ça va bien, ma chérie, inquiète-toi pas, tout va bien, puis là, t'es là... comment il peut me dire une chose comme celle-là? T'sais, je sais que ça peut être pire vu de loin. Dans notre salon, nous, on voit des images de corps explosés, puis on pense qu'il y a juste ça comme réalité, alors que lui, il voit plus large que ça, puis qu'il est capable d'aller prendre un café, puis il peut marcher dans une rue sans se faire exploser. Mais je veux dire, quand on est comme ça, à l'autre bout du fil, on est vraiment dans l'inquiétude totale.
Michel, est-ce que... Ça fait partie de ceux et celles qui, lorsqu'ils communiquent, disent « tout va bien », alors que tout va pas bien.
Mais c'est sûr qu'on dit toujours que tout va bien. T'sais, on veut pas inquiéter...
Les journalistes mentent.
À leur conjoint. Tout ce qui est écrit est vrai, mais tout ce qui est dit au téléphone... non, moi, je dis toujours que tout va bien. Pour ma fille ou pour mon chum, ça donne rien de les inquiéter. Oui. On les inquiète déjà, c'est comme ça. Mais la période la plus, une des périodes les plus stressantes, c'est avant le départ. Avant le départ, c'est extrêmement stressant parce que, comme disait Céline, on a tellement de choses dans la tête, tellement de trucs. Il faut, l'anxiété anticipatoire avant d'être sur le terrain, c'est très difficile. Donc, on n'est pas disponible. On n'est pas là pour réconforter. On n'a pas envie de réconforter. Et au contraire, l'angoisse du conjoint ou de l'enfant est un poids. Alors, on a hâte de partir, on a hâte d'être dans l'action. Ensuite, on est dans l'action, on couvre 3 semaines, 1 mois, ou puis après, quand on revient, bon, on est crevé. Et puis après, bon, ben la vie reprend, on retourne au travail. Donc, on balaie beaucoup sous le tapis. Moi, Daniel me posait des questions, je me disais, bon, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Qu'est-ce que je pourrais répondre d'intelligent? Mais c'est ça, ça a forcé une réflexion qui n'avait pas été faite.
Dans le livre, il est fréquemment question... du rôle du journaliste. On viendra à la grande question plus tard. Est-ce que une bonne histoire, ça vaut la mort d'un journaliste? Mais avant d'y arriver, il y a une chose qui est en permanence, c'est que vous êtes témoin sur le terrain de gens qui sont en danger. Je parle des populations civiles. Bon, les armées, ça s'est organisé, ça va, mais les civils. On dit toujours qu'un journaliste, c'est un témoin, c'est pas un acteur. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, là, je mets de côté mon âme de journaliste et je vais aider cet enfant-là, ce petit garçon, cette petite fille, cette dame qui est seule, puis il y a des satires partout? Est-ce que le devoir d'assistance en personne en danger, comme dont on parle, est-ce que vous avez déjà vécu ça, Céline et Michel?
Michel a un épisode qu'elle raconte dans le livre qui est très éloquent, mais on l'a tous. J'ai porté des enfants tchétchènes dont les jambes venaient d'exploser dans mes bras. On sert d'ambulance, on donne ce qu'on peut donner, etc. Évidemment, tout ça s'arrête éventuellement parce qu'à un moment donné, on est aussi là pour faire un certain travail et il faut continuer à le faire. Mais Michel, au Liban, a un très bel exemple.
Oui, bien la seule fois où ça m'est arrivé vraiment, on était une dizaine de journalistes et on était à tir au Liban. Et on n'osait pas aller dans le sud, vers la frontière israélienne, parce qu'il y avait des bombardements. Mais finalement, un concours de circonstances, on est parti, un groupe de journalistes, une dizaine peut-être, avec des vieilles autos. Et quand on est arrivé dans le village qui était à 2 kilomètres de la frontière israélienne, qui s'appelle Aït Harun, on est arrivé, ça faisait 21 jours que les bombardements avaient commencé, et personne n'était venu les aider. Alors, quand la dizaine de journalistes sont arrivés avec leurs vieilles autos, ils ont cru qu'on était la Croix-Rouge. Alors, quand on est arrivé dans le village, c'était complètement désert. Là, il a dû y avoir un bouche à oreille. Alors, on a vu tous les gens, les femmes, les vieillards, les enfants, arriver vers nous en courant de l'autre côté de la rue. Il fallait qu'ils passent par-dessus les débris parce qu'à cause des bombardements, les rues étaient défoncées. Ils venaient vers nous avec tout leur grabat, leurs vieilles affectiques qu'ils avaient ramassées parce qu'ils pensaient qu'on allait les sortir de leur village. Alors, spontanément, tous les journalistes, on a mis nos trucs de côté, puis on a été les chercher. On les a aidés. Moi, il y a une vieille dame qui s'agrippait à moi. On tombait par terre. Il y avait de la poussière. C'était le chaos, mais je pense que instinctivement, tu aides ces gens-là. On les a amenés. Là, on avait 10 voitures et à peu près 200 personnes. On a essayé d'amener la plupart des gens. Mais moi, autour de ma voiture, il y avait peut-être 20 personnes. Ils voulaient tous embarquer. Alors, il a fallu qu'on fasse un choix. On a pris les plus vieux. Et puis, mais quand même, les caméramans ont repris leur caméra. Ils ont filmé. Moi, j'ai pris mon capenote, j'ai pris des notes. Donc, on a fait les deux trucs en même temps. Et ensuite, on les a évacués. Et quand on est arrivé au village le plus près, j'ai été voir la Croix-Rouge. Puis là, je les ai engueulés. J'ai dit, écoutez, c'est une gang de journalistes tout croche avec des vieilles autos. On est capable d'aller au village et évacuer les gens. Vous êtes capable de le faire. T'sais. Mais eux disaient qu'ils étaient une cible. Mais nous, nos autos, écrits TV aussi, on était une cible. Mais c'était une drôle de guerre.
Est-ce que vous croyez que le meilleur reportage vaut la mort d'un journaliste?
Je dirais qu'individuellement, non, jamais. Quoi. Nous, on a un collègue qui a perdu une jambe, puis jusqu'à aujourd'hui, on réalise à quel point c'est terrible, parce qu'il s'en remettra jamais, probablement, notre caméraman Charles Dubois. Individuellement, non, mais malheureusement, il faut que les journalistes continuent de témoigner, même si c'est dangereux, même si c'est de plus en plus difficile pour les journalistes, parce qu'il y a eu une époque où les journalistes n'étaient pas des cibles.
Non.
Aujourd'hui, les journalistes sont devenus souvent des cibles. Ils sont enlevés plus facilement, on a vu toutes sortes de cas de journalistes qui sont enlevés pour de l'argent, pour de tuer, parce que maintenant, ça n'a plus tellement de valeur d'être journaliste ou pas journaliste. Je veux dire, autrefois, on tapissait nos voitures de presse de façon sur les toits, de façon à ce qu'on se fasse pas bombarder par des avions, des choses comme ça. Maintenant, on le fait plus parce que c'est le contraire. Je veux dire, on devient des cibles. Donc, c'est dur à dire, puis je crois que je vais vraiment paraître sans cœur, mais je crois que malheureusement, il faut qu'il y ait encore des journalistes qui aillent témoigner de ce qui se passe dans certains lieux, parce que s'il n'y en a pas, ben, on n'en parle pas. Je regardais ce qui se passait, c'était pas une guerre, mais juste au Pakistan, par exemple. Je veux dire, il n'y a pas de journalistes qui ont couvert, les grands réseaux n'ont pas couvert pour toutes sortes de raisons. Ben, on n'en parle pas. Il y a des millions de personnes qui sont réfugiées, c'est une situation épouvantable, catastrophique.
C'est pire qu'Haïti.
Ben, je ne sais pas si on peut...
En nombre de personnes.
Peut-être, oui. Je ne sais pas. C'est toujours dur de qualifier pire. Dans l'horreur, tout est horrible, mais on n'en parle pas. Alors, imaginez tous ces conflits qui existent un peu partout en Afrique, etc., où ils sont trop dangereux à couvrir ou que l'Occident décide de ne pas couvrir parce que CNN ne couvre pas, donc il n'y a pas de pression. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne couvre pas un conflit. Mais si on n'y va pas, ben, ces gens-là, ils restent là-dedans, ils restent dans cette espèce de conflit. Puis personne ne va en parler parce que, comme on dit, ben, sans témoin, pas d'histoire. Donc, c'est ça qui est terrible, 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 terrible à prendre comme décision parce que c'est sûr que nous, par exemple, après cet incident où Patrice Roy a failli perdre la vie et Charles Dubois a été blessé, bien, c'est sûr que Radio-Canada a dit qu'on ne peut plus envoyer des journalistes couvrir de cette façon-là. Il va falloir trouver d'autres façons. Mais bon, ben, l'Irak, on a décidé qu'on ne couvrait pas parce que c'était trop dangereux, il y avait trop d'enlèvements et tout. Et alors, les journalistes américains couvraient avec l'armée américaine, embedded avec l'armée américaine, mais c'est tout. Donc, on ne savait pas comment les Irakiens vivaient, on n'avait pas de nouvelles, on n'avait pas d'images. Donc, c'est ça qui est terrible dans ce genre de choses. Et évidemment, moi, c'est facile pour moi, j'ai été hyper chanceuse toute ma vie, j'ai jamais eu d'incidents graves, alors, ni dans mon équipe. Alors, c'est sûr que je peux plus facilement, avec un certain détachement, dire « oui, théoriquement, il faut y aller ». C'est différent quand, j'imagine, quand on perd un proche, quand on perd un collègue, ouais. ça devient extrêmement difficile.
Michel, Céline vient de dire, bon, nous on part avec l'équipe et puis il y a au moins un caméraman, un chauffeur. Toi, tu as vécu des expériences complètement différentes. D'abord, tu travailles pour la presse écrite. Tu pars seul avec ton carnet. T'as pas de collègue à côté. S'il t'arrive quelque chose, il n'y a pas un caméraman qui peut t'aider. Il y a d'autres journalistes peut-être, mais tu as même revêtu la burqa à un moment donné pour ne pas paraître être journaliste et t'aurais pu faire des entrevues exceptionnelles. Est-ce que tu te sens plus seul parce que tu fais ce métier pour la presse écrite? Est-ce que tu penses que tu prends plus de risques que d'autres?
Je pense que je prends moins de risques parce que j'ai pas de caméra. Mais c'est sûr que je me sens très seule, là. Je pars seule. Alors, j'ai personne avec qui prendre des décisions. On y va, on y va pas. Est-ce que c'est trop risqué? Est-ce que c'est pas trop risqué? Il faut que je jongle seule avec ça dans ma tête. Mais je pense qu'il y a moins de risques à être dans la presse écrite parce qu'on n'a pas de caméra. Avec une caméra, c'est terrible. T'es une cible, tout de suite, c'est ça. Tandis que moi, en Afghanistan, je mets la burqa dans le sud, à Kandahar. Là, je suis revenue de Kaboul il y a 2 semaines et puis j'ai pas mis de la burqa, c'était pas nécessaire. Le voile suffisait parce que c'était en ville et je suis pas sortie de Kaboul parce qu'en dehors de Kaboul, c'est dangereux. Donc, ce qui est difficile quand t'es seule, c'est peser les risques. Seule, tu prends pas toujours les bonnes décisions. En général, je suis extrêmement prudente, mais ça m'est arrivé quelquefois. Parce que c'est un terrain de guerre, je m'engage dans quelque chose, là, ça se met à déraper, puis j'ai plus de contrôle ni sur mon horaire, ni sur mon évacuation. Quand j'ai couvert la guerre civile au Rwanda, je suis rentrée au Rwanda avec l'armée Tutsi, et puis j'étais plus capable de ressortir parce que j'avais pas prévu une sortie, parce que si je l'avais prévu, je serais pas rentrée dans le pays. Donc, c'est plus compliqué. Je pense aussi que comme femme dans un pays musulman, c'est moins risqué, parce que comme par exemple en Afghanistan, dans le sud, à Kandahar, j'ai la burqa, des
donc,
vieux souliers,
pas de lunettes. Aussi.
Je peux parler aux femmes, j'ai
ce
accès aux femmes.
Ce qu'un homme ne peut pas faire.
Oui, et c'est beaucoup plus discret qu'un homme occidental, un blond aux yeux bleus, là, avec une caméra sur l'épaule. Non, j'aime mieux être une femme.
Écoutez, on peut continuer à parler beaucoup ensemble entre nous, mais je pense que ça serait intéressant d'entendre vos questions, d'entendre vos réflexions. Je vous avertis tout de suite, je prendrai pas de discours de 15 minutes avant que la question arrive. Ce qui est important, c'est les questions et les réponses que nous allons pouvoir entendre de la part de ces trois femmes qui sont ici cet après-midi. Donc, il y a un micro. Je vous suggère de vous déplacer vers le micro parce que si vous ne parlez pas au micro, les gens en arrière n'entendront pas votre question. Et donc, il va falloir que je répète. Et puis, je vous demande simplement de vous identifier, de poser une question. Et si c'est dirigé vers une personne, de le dire à ce moment-là.
Je vais juste faire un test. Alors, oui, on m'entend bien au fond de la salle. Merci.
Voici mon nom Jacques Léger de Montréal. Bon, maudit soit la guerre, de toute façon, on peut bien dire ça au départ. Écoutez, je me souviens d'avoir vu Bernard de Rome, je pense, sur un char de guerre entouré de militaires canadiens. Est-ce que c'était en Irak ou en Afghanistan? Je ne me souviens pas exactement. Et il faisait un reportage. J'ai été vraiment blessé par ça. Je me suis dit, un journaliste qui nous parle entouré de militaires, protégé par les militaires, influencé par les militaires, peut-il nous donner une vision tout à fait acceptable de ce qui se passe là-bas? Et moi, j'ai tendance, en tout cas, de ce que j'ai lu sur les reportages de guerre, j'ai beaucoup admiré, entre autres, Michel Ouimet, pour sa tendance à vivre à partir des gens, près des gens, avec eux. Ces reportages, c'est comme si eux autres un peu nous parlaient à travers elles. Alors moi, ma question, au fond, c'est ça. Jusqu'à quel point peut-on accepter de témoigner d'horreurs de guerre qui sont absolument honteuses. L'Irak et l'Afghanistan, c'est une honte pour tous les citoyens du monde. Comment peut-on faire un reportage tout à fait correct sans être influencé par ceux qui nous protègent avec les armes? Merci.
Merci, monsieur.
Ben, je voudrais juste préciser une chose, c'est que quand on va couvrir l'armée canadienne et qu'on se retrouve sur la base militaire de Kandahar pour couvrir les militaires canadiens, ce qu'on a tous fait à un moment ou à un autre. On est là pour donner le point de vue des militaires parce que c'est eux qu'on couvre. On couvre pas la guerre en Afghanistan à partir de Kandahar. On couvre l'armée canadienne et j'imagine, je me souviens pas de ce reportage-là avec précision, mais j'imagine que quand Bernard est allé, c'était son rôle était celui-là. De parler de la réalité des militaires canadiens, parce qu'il est resté, je pense qu'il était resté comme 2 semaines, ou une semaine, je sais pas. Ah oui? Bon. Mais en général, on a cet aspect-là qui fait partie de la couverture qu'un journaliste canadien doit faire, parce que quand même, faut aller montrer la réalité. Malheureusement, c'est la réalité. Vous dites comment témoigner des horreurs de la guerre, mais malheureusement, c'est la réalité la plus dangereuse pour un journaliste canadien aujourd'hui en Afghanistan. C'est probablement celle-là, c'est-à-dire de couvrir, parce que tous nos militaires, ou presque les militaires, meurent en explosant sur des bombes artisanales. Et les journalistes qui couvrent l'armée canadienne, non pas la guerre, mais l'armée canadienne, sont exposés au même genre de risques. Et c'est des risques qui sont énormes, parce que quand on se promène dans ces chars d'assaut avec l'armée canadienne, ben, on y va la peur au ventre, parce qu'on sait qu'on a, je ne sais pas quels sont vraiment les pourcentages, mais c'est à peu près 1 chance sur 2 de sauter sur une mine. C'est ce qu'il y a de plus... En ce moment, c'est probablement une des décisions les plus difficiles qu'on a à prendre comme journaliste. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Parce qu'on sait d'avance qu'on devient des cibles, parce que c'est des cibles parfaites pour les rebelles afghans. Mais il y a cet aspect-là de la guerre. Puis l'autre aspect, ben, d'autres gens le couvrent. Je veux dire, nous, on s'est promenés partout dans le pays pour montrer ce qui se passait. Et j'imagine d'autres journalistes, à ce moment-là, couvraient la guerre ou les conséquences de la guerre de différentes façons. Je pense qu'il y a une facette qui est celle-là, puis il y a d'autres facettes. Je veux dire, dans un conflit, on peut pas... On est toujours d'un côté ou de l'autre. C'est très difficile comme journaliste. Si on est, par exemple, pendant la guerre au Kosovo, on se retrouve soit du côté des Albanais kosovars, soit du côté des Serbes. Alors, il y a soit Belgrade qui se fait bombarder, il y a des journalistes qui couvrent cette réalité-là de la guerre, puis il y a les autres qui couvrent les réfugiés kosovars qui sont rendus en Macédoine. C'est très difficile quand on couvre ce genre de conflit d'être des deux côtés à la fois parce qu'on traverse assez difficilement d'un côté ou de l'autre.
Michel?
Mais la question est pertinente parce que effectivement, quand on couvre un conflit, on peut couvrir toutes sortes de facettes. Les civils, les enfants, les villages, les villes, mais l'armée aussi. Surtout l'armée canadienne, parce que le Canada n'avait pas été impliqué directement dans une guerre depuis la guerre de Corée. Donc, moi, j'ai couvert aussi l'armée canadienne. Et je dis que la question est pertinente parce qu'effectivement, quand on couvre l'armée canadienne, on est ce qu'on appelle intégré dans l'armée, NBD. Alors, c'est eux qui nous logent, c'est eux qui nous transportent. Moi, j'étais dans une base avancée, c'est eux qui me nourrissaient. Si j'étais blessée, c'est eux qui m'auraient soignée, qui m'auraient évacuée. Est-ce qu'on peut être totalement indépendant dans notre couverture face à ces soldats-là qui vont face à cette armée qui nous nourrit, nous loge et va nous soigner et nous évacuer? S'il y a un problème, je pense que la question se pose. On essaie évidemment d'être le plus objectif possible, mais quand on vit pendant 5 jours avec des soldats, qu'on couche avec eux dans un dortoir, qui sont une dizaine, qui sont quand même assez sympathiques, qui vivent des choses difficiles, c'est dur être soldat, et qu'on revient ensuite dans la grande base, non, c'est pas évident. Et je pense que oui, il peut y avoir un problème d'objectivité. Mais on peut pas ne pas témoigner de la vie de ces soldats-là parce que ce problème-là se pose. Parce que ça fait partie de la couverture et je peux vous dire que l'armée, ils sont fatigants. T'sais, tu t'en vas où? Ça, tu peux pas l'écrire. Ta-ta-ta, c'est secret. On peut même quasiment pas donner la couleur des murs de la tente parce que, on pourrait remettre en question la sécurité des soldats. Donc, les relations, en tout cas, moi, mes relations avec l'armée ont toujours été extrêmement difficiles et tendues. Mais je pense qu'il faut quand même couvrir, mais il faut être conscient comme journaliste à quelque part que oui, ils essaient de contrôler le message.
Si je peux peut-être juste rajouter une petite information là-dessus. En 91, lors de la première guerre du Golfe, avec Alain Saunier comme réalisateur, on est parti puis on a décidé de ne pas être embedded. Il y avait des collègues, Raymond Saint-Pierre et d'autres, qui étaient sur le terrain, qui couvraient le conflit comme tel. On a décidé de faire le tour de tous les pays qui touchaient à l'Irak et au Koweït. Il y a un journaliste américain de CBS, Bob Simons, qui avait décidé de faire la même chose, de ne pas se rapprocher, et lui il est américain, de l'armée américaine. Bob a traversé la frontière, il a été fait prisonnier très rapidement, il a été, paraît-il, presque torturé, et ils ont réussi à le sortir, il était amaigri, il a failli mourir. Il n'y a plus de règles qui tiennent quand il y a une guerre. D'ailleurs, quand on part à l'étranger pendant un conflit, nous perdons nos assurances. Donc, il faut qu'on nous réassure à des milliers de dollars par jour quand on est une équipe. Donc, ce ne sont plus les règles normales du jeu dont on peut tenir compte. Et ce que Céline et Michel disent est tout à fait juste, à mon avis. Et moi, j'ai pris des risques. Entre autres, j'ai été emprisonné à Abu Dhabi parce que j'étais en train d'interviewer un travailleur afghan qui était camionneur là-bas, puis tout à coup, ils ont dit « t'as pas le droit de faire ça ». Il y a toujours quelqu'un qui intervient et qui prend le droit entre ses mains et qui vous dit « ça, t'as pas le droit de le faire ». Il y a plus de droits qui tiennent. Il y a les conventions de Genève, je veux bien, mais c'est être... Et comme dit Michel, l'armée canadienne, pour la première fois depuis la guerre de Corée, depuis 53-55, qui est impliquée, on ne peut pas ne pas en témoigner, et comme dit Céline, c'est peut-être l'endroit le plus dangereux pour être, parce qu'on est ciblé automatiquement.
J'aimerais ça qu'on reparle de la notion de risque, parce que où est-ce que le risque est plus grand? Est-ce que c'est plus risqué, par exemple, effectivement, d'aller, de monter dans le blindé avec l'armée ou de se promener sous une burqa, puis d'être découvert, puis d'être enlevé dans la rue? Mais il y a aussi un exemple qui me vient en tête. Bon, d'abord, moi, mon chum, il me disait toujours « je ne prendrai pas de risque inutile ». Mais qu'est-ce que c'est un risque utile? C'est quoi la notion de risque? Comment est-ce qu'on peut sentir quand c'est plus dangereux ou pas? Est-ce qu'ils ont des antennes qui sont capables de mesurer qu'est-ce que c'est le risque? Il y a Patrice Roy qui me disait, par exemple, quand j'étais dans le blindé, tu comprends, tu roules depuis 12 heures là-dedans, t'as pas de retour en arrière possible, t'es pris là, tu sais pas ce qui va arriver, tu ne maîtrises rien, donc... Qu'est-ce que c'est le degré de risque? Et il y a Raymond Saint-Pierre qui me dit, écoute, moi, la fois où j'ai eu le plus peur dans ma vie, j'ai été blessée, on m'a défoncé le cuir chevelu, c'était dans une manif à Paris parce qu'il s'est fait attaquer par des gens à la queue de la manif. Alors, on pense pas qu'on va être attaqué dans une manif à Paris. Donc, toute cette notion de risque, en tout cas, je trouve que c'est pas noir ou blanc.
Donc, d'ailleurs, si je peux vous donner un petit détail, quand on va à l'étranger, on est obligé maintenant de suivre une formation AKE, c'est les Britanniques qui ont inventé ça, parce que les assureurs qui nous réassurent nous exigent qu'on ait cette formation-là. Et la première chose qu'on nous dit, c'est quand vous allez aller dans des zones hostiles, la première source de danger, c'est les accidents d'automobile dans la ville où vous allez être. Et la deuxième, c'est les virus. Et le risque de se faire tirer dessus, je pense, c'est le sixième ou septième. Alors, quand on entend Sylvain te répondre, « Je peux me faire tuer en traversant la rue », qu'est-ce que tu réponds, toi?
Moi aussi, je peux me faire tuer en traversant la rue. Tous ici, on peut sortir ici puis se faire tuer en traversant la rue. La différence, c'est que lui, il y a des talibans à ses trousses, puis il y a peut-être une bombe qui peut exploser sous son pied en plus, tu sais. C'est pas tout à fait la même notion de risque, là.
Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Ne vous gênez pas. Venez, madame, s'il vous plaît.
Alors, je suis Laurette Lorrain. Daniel, j'aurais une question pour toi.
Vous êtes sa sœur?
Oui. Et c'est pas une question plantée.
On accepte les conflits d'intérêts aujourd'hui.
Je sais que tu disais tantôt que tu avais beaucoup écrit ce livre-là pour comprendre les motivations de Sylvain et puis que tu as beaucoup parlé de ta colère. Si demain matin, Sylvain t'annonce qu'il repart, est-ce que tu vas être encore en colère?
En tout cas, je vais être aussi inquiète, c'est-à-dire que j'ai mieux compris tous toutes les coulisses du report de guerre, les motivations des journaux de guerre. J'ai vraiment mieux compris, je l'ai plus éclairci, mais il reste que il y a les autres, puis il y a mon chum. Puis mon chum, ben je veux pas qu'il meure, je veux pas que personne meure ici, mais je veux dire, mon chum, c'est sûr que s'il part demain matin, je vais être dans le même état que j'étais au lendemain du 11 septembre 2001, quand il est parti la première fois en Afghanistan. C'est sûr, mais je pense que je suis plus dans la colère. C'est ça la différence.
Vous voilà rassurée. Une autre question, s'il vous plaît, madame, venez.
Mon nom est Monique Leblanc. Alors, ma question... pour vous. Ce matin, j'ai acheté une livre de beurre et la livre de beurre valait 3,75. Ma question, c'est que vaut une vie humaine pour vous?
Daniel a posé la question, est-ce qu'un meilleur reportage vaut la vie d'un journaliste? Moi, je la poserais autrement, parce que le meilleur reportage, non, ça vaut pas la vie d'un journaliste. C'est pour ça qu'il faut peser les risques. Mais évidemment, on joue un peu avec... ça prend une boule de cristal et beaucoup de chance, parce qu'on peut pas, évidemment, contrôler tous les risques, parce que comme dans un terrain de guerre, un terrain mouvant, il y a des dérapages. Mais il y a des choses que moi, je ne ferai plus. Comme disait Céline, ce qu'il y a de plus dangereux actuellement en Afghanistan, c'est se promener en blindé. Et moi, c'est non, plus jamais. Plus jamais je vais me prendre en blindé, ça vaut pas le coup. C'est beaucoup trop dangereux. Ils nous disent pas vraiment combien de blindés sautent, mais ça doit être pas loin de 1 sur 10, 1 sur 2, 1 sur 5, on ne sait pas. Là, l'armée est extrêmement secrète là-dessus. Mais par contre, on ne peut pas ne pas témoigner. Il y aura toujours des journalistes, ce sera pas nécessairement moi. Il faut qu'il y ait une relève à la presse, et la presse est en train de faire la fameuse formation dont on a parlé, de AKE, et pour justement former une relève de jeunes journalistes. Mais on ne peut pas ne pas y aller. On ne peut pas ne pas couvrir les guerres. Moralement, c'est inacceptable. Bon, et puis, ce que vaut la vie, c'est sûr que les vies sont toujours précieuses. Je pense à Charles Dubois et au traumatisme qu'il a subi et à sa vie qui va en être teintée toute sa vie. Mais il y a les vies aussi afghanes, il y a les vies iraniennes, il y a les vies rwandaises, les vies dont on témoigne. Céline, par ses textes et par les images, moi par les textes, on ne peut pas ne pas le faire. Pour ce qui est des risques, oui, Daniel, c'est sûr que quand on dit « je prends des risques calculés », je dis exactement la même chose à mon chum et à ma fille. Et oui, et le pire, c'est que je me crois vraiment. Je suis convaincue que je prends des risques calculés puis que c'est bien intelligent, mon affaire. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça peut déraper parce que je peux rentrer au Liban puis être capable de sortir. Je peux rentrer au Rwanda puis capable de sortir. J'étais à Kaboul il y a 2 semaines. J'étais convaincue que j'avais une sécurité relative. Céline et moi travaillons avec le même fixeur, Akbar, depuis, c'est un homme, un pashtoun de 40aine d'années qui a énormément d'expérience en qui on a extrêmement confiance.
Et qui si lui une armoire me dit, à glace aussi.
Oui, ça armoire à glace un peu, oui. Et un pashtoun. Alors, quand il me dit « t'as pas besoin de porter ta burqa », moi, je le crois. Là. C'est comme j'ai déjà dit à mon chum et à mon patron, c'est le seul homme à qui je dis oui sans rouspéter. Alors, ça fait partie aussi... Ça fait partie aussi des risques calculés. On prend un excellent fixeur en qui on a confiance et on sait qu'il ne nous vendra pas. Et c'est lui qui choisit le chauffeur. Et le chauffeur, la plupart du temps, c'est un membre de sa famille. C'est ça, des risques calculés.
Monsieur.
Bonjour, Amin Benzaza de Montréal. J'ai une question au niveau des conflits que vous avez couverts. Est-ce que dans le passé, enfin aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets par rapport à des choses que vous n'avez pas eu la chance de dire dans vos reportages ou de couvrir pour des raisons externes ou des raisons à vous? Merci.
On a toujours des regrets, c'est jamais assez en fait. Le regret, c'est de ne pas pouvoir rester plus longtemps, c'est de ne pas pouvoir raconter plus parce que nous, on arrive, on est souvent là pour... Il y a des conflits qu'on a couverts sur des très longues périodes, ce qui nous permet, je crois, de dire plus ce qu'il en est vraiment, de donner plus la parole aux gens. Mais nous, en télévision surtout, ça se fait souvent très rapidement. Alors, moi, mon seul regret, c'est de pas en avoir fait plus. J'aurais aimé pouvoir, comme certaines collègues de la presse écrite, parfois passer des semaines, des mois avec les gens, vivre avec eux et raconter ce qu'ils vivent. Mon autre regret, c'est de travailler pour la télévision, qui est une grande force, parce que les images, c'est extrêmement puissant. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas montrer ou pas dire à la télévision, parce que souvent, par pudeur, on les montre pas, par... respect pour certaines personnes, on ne les montrera pas. Parce que c'est sûr que nous, ce qu'on montre à la télé, c'est jamais ce qu'on voit. Quoi. C'est toujours beaucoup moins. Parce que c'est ça, je veux dire. Donc, moi, j'ai ce regret-là. Je me dis souvent, à la presse écrite, on peut raconter, on peut faire passer beaucoup plus de choses, peut-être. Je ne sais pas. Mais moi, c'est surtout sur la durée, je crois, que j'ai des regrets.
Michel?
Un peu la même chose. Quand on part, on se dit tout le temps, mon Dieu, j'ai pas fait ça. Bon, parce que tout est plus lent dans un terrain de guerre. Tout est toujours beaucoup plus long qu'on croit. Aussi, le regret, je suis convaincue que Céline partageait même que moi, c'est les gens qui auraient voulu qu'on les aide. Des gens qui veulent quitter leur pays en guerre, puis qui voudraient venir au Canada, mais on peut pas. Il faut leur dire clairement, il faut pas les entretenir dans des fausses illusions. Non, ça, je peux pas. Par contre, je peux raconter votre histoire. Mais vous aider à rentrer au Canada, c'est pas possible. Et puis, on voit souvent la déception très grande de ces gens-là, les gens qu'on a laissés en arrière. Nos fixeurs avec qui on travaille et qui prennent des risques pour nous et qui, eux, restent là-bas. Et des fixeurs avec qui on retravaille, donc on crée des liens avec eux. Ça, oui, c'est le regret-là.
Si je peux ajouter juste un peu là-dessus, en 1992, j'ai couvert je pense que j'étais par hasard le premier journaliste à faire un reportage sur les orphelins du sida. C'était en Ouganda, dans un minuscule village qui s'appelle Kachanga. Et je suis arrivé là et j'ai beau avoir travaillé dans 40 pays, avoir fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai eu le choc de ma vie. Il n'y avait plus un seul adulte de vivant entre 18 et 55 ans. Ils étaient morts du sida. Il ne restait que des grands-mères et des petits-enfants. Il y avait là une grand-mère de 63 ans dont les 18 enfants étaient morts du sida et elle s'occupait de ses 63 petits-enfants. Et à un moment donné, en me promenant dans le village, j'ai senti une main dans la mienne. C'est une petite fille d'à peu près 5 ans. Moi, je suis le père de 3 filles. Et tout à coup, elle m'a parlé en swahili. J'ai demandé à l'interprète, qu'est-ce qu'elle me dit? Et elle me dit, elle vous demande si vous ne pourriez pas l'amener avec vous. Elle veut un papa. Qu'est-ce que vous faites? C'est évident que vous ne pouvez pas dire « Oui, je vais te sauver », comme on ne peut pas prendre tous les gens que tu as rencontrés à la frontière du Liban, dire oh, « Je vais vous sauver ». Et ce sont des regrets d'hommes ou de femmes, des regrets de père ou de mère de famille, humains. Mais il faut être blindé pour faire ce métier, sinon on ne peut pas le faire. Il faut être capable d'être chaud vis-à-vis des gens qu'on rencontre et froid quand on en témoigne. Et ça devient un peu fou à un moment donné. Il y a toujours un peu d'air entre l'arbre et l'écorce. Et que ce soit d'une guerre ou d'une catastrophe comme celle du sida, on demeure des êtres humains, mais tout à coup, il faut comme mettre ça de côté pour essayer de vous informer le plus honnêtement possible. Monsieur?
En fait, Jean-Amel, je voudrais revenir sur la question des motivations. Parce que ce qu'on comprend, c'est votre désir de témoigner de situations extrêmes. Mais au départ, lors d'une première affectation dans une zone de guerre, quel est l'élément qui vous motive le plus? Et après avoir vécu plusieurs expériences, est-ce que cette motivation-là varie? Est-ce que votre motivation est différente? Puis dans un deuxième temps, si je peux me permettre une deuxième question, est-ce que vous avez des collègues qui, d'aucune façon, ne le feraient? Et si vous en parlez avec eux, quel genre de discussion vous avez? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette capacité de vouloir et de continuer à couvrir des zones de guerre versus d'autres journalistes qui peut-être savent déjà qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour le faire sans dire qu'ils sont incapables de le faire? Donc, sur les motivations.
Je vais demander à Michel de répondre d'abord. Je vais vous dire pourquoi. Michel et moi, on a travaillé ensemble à l'émission Le Point pendant 8-9 ans. Et Michel était la chef recherchiste du Point. Puis tout à coup, je la retrouve reporter en Afghanistan. Qu'est-ce que tu faisais là?
Ça, c'est la question à laquelle je n'aime pas tellement réfléchir. Ça fait partie des choses qui sont sous le tapis. Comment je pourrais dire? C'est qu'il y a beaucoup d'instinct dans tout ça. Le besoin, quand je suis assise dans mon salon, puis que quand j'ai vu les talibans, je me suis dit, je vais être là. Pourquoi? Je ne sais pas. Je voulais aller en Afghanistan sous les talibans. Puis j'avais fait mon épicerie, puis je feuilletais le Paris Match, puis je voyais des photos des talibans, puis je regardais tout ce qu'ils faisaient. Puis c'est de l'instinct. Je voulais être là-bas. Je voulais être sur le terrain. Je voulais voir. Je voulais témoigner en écrivant. Et aussi, une fois parti, quand on est là-bas, quand on est sur le terrain, il y a peut-être une sorte de liberté. T'sais, on a tout le terrain à nous, on est là, et puis on choisit nos sujets, on écrit, on veut trouver les mots justes pour frapper le lecteur, pour qu'il nous suive et qu'il vienne avec nous. Et aussi, peut-être qu'on a un sentiment de se sentir vivant. Parce qu'on est là en plein milieu de l'action et je sais pas si il faudrait peut-être s'étendre et demander au Dr Freud de poursuivre, mais en tout cas pour moi c'est ça. Quand je parle à mes collègues, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas, il y en a beaucoup qui ont des jeunes enfants, ce que je respecte totalement et parfaitement, mais c'est une petite minorité chez nous de journalistes qui ont envie de qui partent à l'étranger comme ça, parce que c'est extrêmement stressant aussi, donc faut être capable à quelque part de gérer son stress. Et quand on dit, il faut s'endurcir, il faut être blindé. Moi, je pensais qu'à force d'en faire, je deviendrais de plus en plus blindé. Étonnamment, c'est un peu le contraire qui se passe. Plus j'en fais, plus dans le fond, je me rends compte que chaque reportage, et peut-être la même chose pour Céline, a fait comme une petite fissure dans l'âme. Puis je me rends compte que j'ai de plus en plus de petites fissures et que je suis de plus en plus bouleversée par les histoires, par les gens qui sont seuls, par les gens, les femmes. J'ai fait des trucs sur des femmes à Kaboul qui vont être publiées en janvier. Des femmes qui ont fui le domicile conjugal et qui vivent dans des refuges. Cette impuissance-là, à force de couvrir toujours les guerres, puis à se demander, mais c'est quoi le problème de l'homme d'être aussi sauvage avec l'homme? En tout cas, moi, je pense que ça m'a rendue de plus en plus vulnérable, mais ça ne m'empêche pas de continuer à aller sur le terrain.
Décision, il n'y a personne qui force les reporters à aller dans les terrains de guerre. C'est une décision personnelle, en fait.
Céline?
Je pense que quand on est correspondant, par ailleurs, à l'étranger, c'est presque une obligation, parce que sinon, on ne ferait pas ce métier-là. Je veux dire, si c'était chaque fois pour dire, ben non, je ne veux pas y aller. J'ai une collègue qui travaillait pour ABC News, le réseau ABC, qui était leur star reporter, une Canadienne. Et un jour après, je ne sais pas combien d'années, elle a dit « Ma fille ne veut pas que j'aille en Irak, je n'irai pas ». Elle a été mise à la porte le lendemain. Ah, ouais. Elle a travaillé pour CNN pendant quelques années avant de se retirer. Donc, c'est pas une obligation. Et c'est vrai qu'à Radio-Canada, on a le droit de dire non, il n'y a pas de problème. Mais quand on est correspondant, ça va sembler... C'est horrible ce que je vais dire, mais en même temps, il n'y a rien... Pourquoi on veut aller dans des zones comme celle-là? Ben, la première fois, on le sait pas. Moi, la première fois, je suis arrivée en Russie. J'ai entendu parler, il y a une réalisatrice russe qui m'a dit, tu sais, il y a un endroit avec des gens, ils sont fous ces gens-là, ils sont armés jusqu'aux dents, ils se promènent dans la rue, etc. Puis ils veulent se révolter contre les Russes et tout. Ça s'appelait, j'ai dit, ils s'appellent comment, les Tchétchènes, bon. Personne n'avait jamais entendu parler des Tchétchènes. J'ai décidé d'aller voir, on a fait un premier reportage, c'était avant la guerre, où on a découvert un peuple de guerriers, mais absolument, moi j'ai été complètement fascinée par ces gens-là, je me souviendrai toujours des reportages que j'ai faits, on était à un moment donné dans un mariage, dans une maison, les gens tiraient, on voyait le mortier, le ciment, en tout cas c'était des gens, et c'est vrai qu'ils se promenaient, puis se préparaient à l'invasion russe, personne ne pensait qu'il y aurait une invasion russe, mais eux ils se préparaient, alors ils étaient devant le Parlement, ils dansaient, ils chantaient, etc., j'ai appris que c'était des musulmans, bref, j'ai fait découvrir ce peuple-là, ouais. Je me souviens très bien quand j'ai appelé le réseau anglais, parce que je travaillais pour les deux réseaux, la chef des nouvelles m'a répondu « News from nowhere, we're not gonna take it ». Alors, ils n'ont pas pris mes reportages. Les Français étaient emballés, évidemment, au Québec. Les gens avaient trouvé ça absolument fascinant. 3 mois plus tard, c'était la guerre, l'invasion russe. Donc, on a couvert à ce moment-là de façon continue. Pendant plusieurs années, j'étais là, je suis retournée, etc. Je me suis beaucoup attachée aux gens. Puis la première fois, évidemment, je connaissais pas ça, la guerre. La première fois où je me suis retrouvée dans une zone... Puis en plus, c'était une guerre comme on n'en voit plus beaucoup, des guerres comme celle-là. Donc, une vraie sale guerre, c'est-à-dire que où ça tire vraiment, où on arrive quelque part, puis il y a des corps, puis ça fume. Les corps fument. Puis c'est, en tout cas, c'est des images que j'oublierai jamais. Mais j'ai été complètement... J'ai eu tellement peur ce premier voyage-là, j'étais pas préparée à l'époque, on n'avait pas de gilet pare-balles. Je me souviens, on m'en avait envoyé de Londres que j'avais reçu. On se promenait dans une vieille Jigouli, qui est une sorte d'une vieille Lada, avec un chauffeur. On était serrés dans une petite voiture, puis on se promenait, puis on voulait témoigner de ce qui se passait, puis il y avait beaucoup de propagande de la part du gouvernement russe et tout ça. Donc nous, notre rôle, c'était de nous promener du côté des Tchétchènes, puis de montrer ce que ces gens-là vivaient. Mais j'ai eu tellement peur que je crois qu'après, ben, ça m'a comme, d'une certaine façon, ça m'a comme blindée contre le reste, parce que je pense que j'ai jamais eu aussi peur que ça de ma vie, parce que la première fois, on sait rien, on se rend compte par la suite qu'on a eu probablement la chance du débutant, mais on prend tellement de risques parce qu'on sait pas. Alors, par exemple, on fait des entrevues, puis on est habitué, nous, quand on fait des entrevues à la télé, il faut toujours qu'il y ait un background. Alors, il faut toujours qu'il y ait quelque chose en arrière pour justifier notre entrevue. Mais quoi de mieux que de se retrouver, puis il y a des soldats en arrière, puis il y a des Tchétchènes pas trop loin, puis nous, on fait notre entrevue. Ben là, la personne, on se fait tirer dessus. On est la cible parfaite. Tout à coup, on se fait tirer dessus de partout. On apprend qu'il faut se mettre le dos au mur quand on fait les entrevues. On met son caméraman, l'invité, collé sur un mur. Au moins, on peut pas se faire attaquer de ce côté-là. On peut se faire attaquer des autres côtés, mais pas de ce côté-là. Bref, il y a des petites choses qu'on apprend. Mais je crois qu'on continue après à y retourner parce qu'on a l'impression, peut-être, en lisant le livre de Daniel, et surtout son questionnement là-dessus, ça change quoi, finalement? Est-ce que ça empêche les conflits? Non. Je crois qu'on a l'impression de faire notre part, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on témoigne, qu'on explique un conflit à des téléspectateurs qui sont à des milliers de kilomètres. On essaie de leur faire comprendre que c'est important pour eux de savoir ce qui se passe dans cette région-là, qu'il y a des gens qui meurent, des femmes qui meurent, des enfants qui sautent sur des mines, une situation épouvantable. Puis je crois qu'il faut dénoncer ce genre de situation-là. Donc on y va une première fois, on y retourne parce qu'on veut savoir ce qui est arrivé à ces gens-là. On continue d'y retourner, même si c'est très, très compliqué, parce que là, les Russes comprennent que des images, c'est jamais bon dans le monde de montrer ça et tout. Mais on veut témoigner de ce qui se passe. Puis je pense que quand on parle de notre mission, c'est un peu ça. On a l'impression que c'est important de faire ça. C'est important que des journalistes le fassent. Puis nous, évidemment, on est très chanceux parce qu'on est des journalistes qui travaillons pour des grands réseaux avec beaucoup moins de moyens que les réseaux américains, mais quand même beaucoup de moyens, des assurances, une forme de sécurité. Maintenant, quand on se déplace dans des zones de conflit, on est accompagné de gardes armés qui nous protègent. Bon, alors qu'on a plein de collègues russes, des collègues qui font ce métier-là, puis qui se font assassiner parce qu'ils travaillent dans des conditions où en Afrique, des gens qui ont aucune protection, aucune des protections qu'on a, et qui continuent de faire ce métier-là parce qu'il faut témoigner de ce qui se passe, parce que sinon vous ne seriez pas ici, vous ne seriez pas, personne ne saurait, aucun gouvernement n'agirait, parce que c'est très facile de ne pas agir quand on ne sait pas ou de faire semblant qu'on ne sait pas. Alors, moi, je pense que c'est pour ça qu'on y retourne après. Et puis malheureusement, ben, comme journaliste, c'est ce qu'il y a de plus intense pour nous de couvrir ce genre d'endroit-là. Parce que, comme disait Gilles, c'est tout ce qu'il faut pour une bonne, entre guillemets, histoire. Parce que c'est la vie, c'est la mort, c'est la haine, c'est les blessures. Tout est tellement intense dans ces zones-là que c'est sûr qu'après, quand on revient et qu'on couvre... Je sais pas, le Parlement à Ottawa, on se demande même quel est l'intérêt de parler de ce genre de choses, quoi. Ou d'écouter Bastarache du long du matin au soir. C'est terrible. Pour nous, il n'y a rien de plus terrible que de voir ça. Parce qu'en même temps, c'est important. En même temps, on comprend que ça fait partie de la vie, qu'il faut dénoncer des choses ici aussi. Mais j'admire beaucoup Michel, parce que Michel, elle passe de tous ces mondes. Au municipal, au maire Tremblay.
Qui est quasiment plus dangereux. Oui,
alors, c'est ça qui est... Mais pour nous, c'est vrai que ce sont des endroits où on vit notre métier plus intensément que dans la réalité, dans le petit quotidien qu'on a, dans les sociétés privilégiées où on ne se fait pas tirer dessus à tout bout de champ, quoi.
Et ça, tous les journalistes de guerre que j'ai rencontrés en témoignent. Il y a cette espèce d'adrénaline aussi qui est très, très, très forte dans les pays en guerre. Il y a cette espèce de besoin aussi, quelque part, quand on risque sa vie, hein, il y a quelque chose de fort qui se passe. Il y a quelque chose de fort qui peut ressembler à une drogue, puis on a envie de recommencer. Alors ça, je l'ai senti beaucoup chez beaucoup de reporters de guerre. Le fait d'avoir pris des risques, d'avoir senti le danger, puis de pas être mort, puis d'être encore vivant, ça se dit, ben on peut recommencer, puis on peut le refaire. Puis quand on le refait, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qu'on ressent. C'est vraiment une espèce de drogue. Par exemple, quelqu'un comme Roger Hawk, qui a passé 11 mois en détention au Liban et qui décide, après, d'aller couvrir la guerre en Irak, de retourner au Liban, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de puissant qui se passe dans la tête de cette personne-là.
Daniel, est-ce que dans toutes les entrevues que tu as faites, tu as senti à un moment donné que dans ces personnes que tu avais rencontrées, il y en a qui étaient un peu suicidaires?
Moins un?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a... Suicidaire, moi, j'irais pas jusque-là, mais il y a un photographe de guerre français qui s'appelle Patrick Chauvel. Lui, son approche de la guerre, il a commencé à l'âge de 17 ans. Il a couvert la guerre du Vietnam. En fait, il a commencé en Israël, mais il a couvert ensuite toute la guerre du Vietnam. Et il était avec les soldats. Et quand les soldats tiraient, ils prenaient la balle qui partait, ou ils prenaient le blessé. Tu sais, c'est vraiment... Ça, c'est un vrai maniaque de la guerre dans ce qu'il y a de très concret, de très militaire. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est quand le soldat va sauter du troisième étage, il va prendre la photo dans la position en train de tirer. Bon, c'est le seul que j'ai rencontré comme ça. Et donc, lui, il a pris énormément de risques. Il a été blessé. Il a failli mourir je sais pas combien de fois. Mais lui, son adrénaline, donc, elle est là. De dire qu'il est suicidaire, je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que la meilleure photo vaut la mort d'un journaliste? Il dit, si vous posez cette question-là à un coureur automobile, il va pas vous répondre « j'ai peur de mourir », il va vous dire « attends, je suis en train de négocier comment je vais prendre ma courbe pour pouvoir gagner ». Alors il dit « moi, je suis en train de négocier comment je vais me placer pour faire une bonne photo ». Si tu me demandes si ça vaut la peine de mourir pour ça, j'ai pas le temps de penser à ça.
D'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, vous levez parce que les gens n'entendront pas. Vous venez au micro, s'il vous plaît.
Oui. C'est pas une question, c'est une remarque. Là, je vous connaissais bien, vous quatre. Je vous lisais, je vous écoutais depuis longtemps. Je vous appréciais beaucoup. Mais après vous avoir écouté cet après-midi, je vous comprends mieux, je vois mieux qui vous êtes et je vous admire davantage. Voilà.
Madame.
Bonjour, France Urtubise, Croix-Rouge. J'ai été un tout petit peu interpellée au cœur quand Mme Ouimette a parlé de la Croix-Rouge qui n'avait pas porté de l'aide à ces gens au sud du Liban. Je ne connais pas, je vais juste terminer mon commentaire. Je ne connais pas ce cas en particulier. J'ai couvert plusieurs guerres également avec le CICR pendant plusieurs années. Je pense qu'il faut voir la notion. Oui, les journalistes prennent beaucoup plus de risques que les humanitaires. J'ai perdu plusieurs collègues qui ont été tués, qui ont été kidnappés. Lorsque la Croix-Rouge prend la décision, notamment le CICR, parce que ce sont eux qui sont dans les zones de conflit, lorsqu'ils prennent la décision de ne pas intervenir, c'est parce qu'on a des informations qui justifient cette décision. Et soyez assurés que lorsqu'on est là, nous, derrière, et qu'on voit qu'il y a des gens, j'étais à Sarajevo durant le temps de Srebrenica, et lorsqu'on sait qu'on ne peut pas bouger parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas bouger, on est vraiment dans un état difficile parce qu'on voudrait y aller. Sauf qu'on a comme consigne qu'on ne peut pas y aller. Alors, c'est excessivement difficile de ne pas y aller. Alors, je voulais juste donner le commentaire de la Croix-Rouge de l'autre côté de la clôture.
Puis-je vous poser une question?
Ben, je vous en prie.
Qui vous décide que vous ne pouvez pas y aller et pourquoi ne pouvez-vous pas prendre la décision d'y aller quand même?
Écoutez, on est quand même dans une équipe. On a un chef de délégation qui, lui, a des contacts avec les belligérants, les deux côtés de la médaille. Il a des informations privilégiées qui sont confidentielles. Et qui souvent nous confirme qu'il y a peut-être des attaques qui vont survenir dans les prochaines heures. Alors, on peut pas comme déléguer au CICR, prendre la décision, nous, comme individus. Moi, je vais aller aider la personne qui est là. Ça se fait pas. On est quand même dans une équipe qui est très enrobée. Alors,
c'est une sorte d'armée.
C'est une sorte d'armée. Mais je vais juste terminer mon commentaire. J'ai énormément de respect pour vous qui êtes sur le terrain. Parce que Dieu sait, parce qu'à la Croix-Rouge, on est neutre, impartial et indépendant. Et on ne peut pas, dire ce que, surtout au CICR, on ne peut pas dire, il y a des choses qui sont confidentielles et que l'on voit, qu'on aimerait dénoncer et qu'on ne peut pas. Et il y a même des fois qu'on se lie d'amitié avec des journalistes et qu'on leur passe une information en espérant que l'information va être publiée parce que nous, on ne peut pas le faire. Alors, bravo pour le travail que vous faites. Et on aimerait, nous aussi, des fois, être plus près des personnes qui sont touchées, mais on ne peut pas, pour des raisons souvent très évidentes. Merci.
Mais c'est vrai quand même, dans ce cas-là, j'étais pas là, mais je comprends ce que tu disais, mais c'est vrai qu'on est souvent très proche des organisations humanitaires, parce que dans beaucoup de terrains, ben, on se côtoie, on fait un peu le même genre de choses. Moi, des fois, quand je suis vraiment très touchée par une situation, je me dis d'ailleurs que je ferais mieux d'aller travailler pour un organisme humanitaire, que je serais pas mal plus utile.
Serais-tu
capable
de prendre un ordre et d'obéir?
Je sais pas, mais des fois, les gens espèrent tellement qu'on puisse les aider. Puis nous, comme journalistes, ben, ça a des limites, ce qu'on peut faire. Alors souvent, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les organisations humanitaires, pour le travail qu'elles font sur le terrain.
Souvent, ces organisations-là tiennent à bout de bras les pays, comme l'Afghanistan sous les talibans. Si la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières n'avaient pas été là, le pays se serait complètement effondré. Par contre, ce sont des organisations extrêmement structurées et ça dépend aussi des pays. Il y a des pays où ils sont très sympathiques, il y a des pays où ils ne sont pas sympathiques. Et puis, il y a des pays où ils sont prêts à aider les journalistes, puis il y a d'autres pays où ils disent, pas encore un journaliste. Puis aussi, il y a des journalistes qui n'ont pas d'allure, qui travaillent n'importe comment, qui peuvent mettre aussi ces organisations-là en danger. Parce que quand la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières acceptent d'aider un journaliste, c'est que le journaliste déconne. Après, le journaliste part et l'organisme, il prie avec ça et doit négocier avec le gouvernement et ils peuvent risquer l'expulsion. Moi, je voulais aller au Darfour avec Médecins sans frontières. Médecins sans frontières m'a dit non parce qu'il m'a dit, si on vous amène et qu'on ne dit pas que vous êtes journaliste et qu'on découvre après que vous êtes journaliste, c'est notre présence qui va être remise en question pour être expulsé du pays. Alors oui, je comprends. Mais dans ce cas précis-là, c'était la Croix-Rouge libanaise parce que chaque Croix-Rouge a ses antennes nationales et ils n'avaient pas bougé. Et bon, c'était peut-être l'adrénaline, je les avais engueulés, peut-être que je n'aurais pas dû. J'étais sortie de mon devoir de réserve, mais je n'ai pas de regrets.
Daniel, dans ton livre, tu as interviewé un humanitaire. J'aimerais que tu nous résumes un peu ce qu'est cette personne-là.
Ronnie Broman, qui travaille pour Médecins sans frontières, qui a longtemps été sur le terrain, qui est allé partout pour venir en aide aux gens victimes de guerre, qui aujourd'hui voyage un peu moins et plus au bureau à Paris. Et lui, c'est drôle parce qu'il me disait, dans un premier temps, pour lui, être travailleur humanitaire, si on devenait travailleur humanitaire, c'est que quelque part, on voulait changer le monde, qu'on croyait pouvoir agir pour que le monde devienne meilleur. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et il s'est rendu compte, finalement, à force de voir des conflits, que finalement, le vrai travail d'un travailleur humanitaire, dans son cas, lui, comme médecin, c'est pas de se mêler de qui sont les bons, qui sont les méchants. C'est pas de se mêler de vouloir sauver les idées de la démocratie à travers le monde. C'est d'être sur le terrain, d'agir concrètement et de sauver le plus de vies possible. Or, dans un sens, c'est proche aussi du travail de reporter de guerre. C'est-à-dire que reporter de guerre, témoigner de ce qu'on a vécu pour vouloir changer le monde et que la guerre cesse, c'est un beau principe, mais dans un sens, leur travail consiste d'abord et avant tout à faire un travail concret, d'être là pour voir ce qui se passe et d'être capable d'en témoigner. Et ce que j'ai aimé dans le fait de rencontrer cet homme-là, Ronnie Broman, c'est qu'il a fait des rapprochements justement, des liens entre le travail de reporter de guerre et de travailleur humanitaire, même si par ailleurs sont très, très différents, là, concrètement.
Si vous permettez, je vais prendre deux dernières questions pour permettre ensuite à ceux et celles qui voudraient rencontrer Daniel de la rencontrer, de signer des livres que j'espère que vous achèterez nombreux. Alors, monsieur, s'il vous plaît.
Ben moi, c'est pas une question, c'est davantage un témoignage. Moi, je suis une des personnes à qui on dit oui en rouspétant. Et je suis une personne très, très proche de Michel. Je suis pas sa fille. Et... mais vous voyez, ce qui me rassure maintenant, c'est de savoir que, Daniel, les talibans en ont peur. Ça me rassure. Et je veux dire, finalement, que j'ai beaucoup de respect, beaucoup de respect et d'admiration pour le travail que vous faites. C'est, je pense, essentiel, même si j'en subis parfois certains impacts. Mais n'empêche, la prochaine fois, je vais mettre 4 étivants dans son verre de vin la veille qu'elle veut partir.
Monsieur, je peux vous dire que vous avez sans doute beaucoup de courage de vivre avec Michel. J'ai travaillé avec elle pendant 8 ans. Je ne l'ai pas épousée. Mais Michel a le droit de répondre.
Oui, il fait chaud.
Oui. Ça a l'air que ça va se régler à la maison. Bon, madame, s'il vous plaît.
Luce Bastien, alors ma question est très personnelle. Vous qui avez vécu et senti des drames humains, et vous, madame Lorrain, à travers votre conjoint, est-ce qu'il y a eu une phase post-traumatique? Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que votre employeur vous assure un suivi psychologique? Alors, c'est très personnel parce que les militaires aussi ont un choc post-traumatique. Et vous, avec ce que vous vivez, y a-t-il eu... Parce que vous avez parlé de fissures, de... Alors, voilà.
C'est une question très, très tabou pour les correspondants. Moi, je peux vous dire que j'ai des amis qui ont fait ce métier-là pendant des années, que je considérais complètement fêlés, mais qui, eux, avaient l'impression d'être parfaitement sains d'esprit. Je ne sais pas. Je crois que oui, je crois qu'on a des traumatismes. Moi, je crois qu'il y a des choses que je ne referais plus. On évolue là-dedans, puis on le sait un petit peu, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on confronte facilement. Aujourd'hui, tout est un peu différent. Tout est beaucoup plus, la couverture de guerre est beaucoup plus encadrée. On a des cours, on a des gilets pare-balles d'été, des gilets pare-balles d'hiver. On est vraiment pas mal plus équipés qu'on était. Et des soins, quand on revient, nos patrons nous encouragent beaucoup à aller parler, etc. Mais c'est très récent. Quoi. Je pense que c'est depuis Haïti, peut-être.
Ah, c'est depuis Haïti.
Depuis ce qui s'est passé aussi, peut-être, parce qu'on a un collègue qui a perdu, donc qui a été blessé. Je crois que c'est très récent. Donc, oui, je crois qu'on est tous très affectés au fond de nous parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas facilement. Mmh. Moi, j'ai raconté à Daniel, puis j'étais même surprise de le dire parce que je ne m'étais jamais rendu compte de ça, qu'en fait, je ne parlais jamais de ce que j'avais vécu. Jamais. J'en parlais avec mes collègues. Parfois, on était très, très proches. On s'en parle le soir à l'aéroport quand on quitte Dubaï parce que là, on peut prendre un verre de vin et puis on se raconte nos histoires. Puis après ça, on s'envole chacun vers notre bout de pays, on retrouve nos proches. Puis c'est fini. C'est fini, on n'en parle plus après. Moi, c'est des choses dont je n'ai jamais parlé. J'ai raconté un événement à Daniel, mon fils l'a lu pour la première fois.
Ah oui?
Et c'est quelque chose dont je lui avais même jamais reparlé à lui, parce que lui en avait souffert. Puis c'est des choses qu'on garde vraiment, vraiment, vraiment à l'intérieur. Et je crois que, oui, on doit être un petit peu... un peu blessé au fond de nous par tout ce qu'on a vu.
Moi, je pense, en tout cas, pour ce que j'ai entendu des journalistes de guerre que j'ai rencontrés, c'est le fait, justement, de se séparer de soi-même. Hein? Le fait de... moi, j'ai appelé ça le cadenas intérieur. Il faut mettre un cadenas, il faut qu'ils se séparent de ce qu'ils ont vu pour, quand ils reviennent, être capable de revenir dans une vie qui est complètement différente. Puis si ils laissent passer toutes les images d'horreur qu'ils ont vécues, ça n'a pas de sens non plus. Donc, il y a une espèce de blocage. Et nécessairement, on le sait, quand on bloque quelque chose, ça trouve toujours le moyen de revenir quelque part. Donc, voilà.
Michel.
Merci.
Je peux peut-être simplement ajouter un petit détail là-dessus. C'est le jour où j'ai accepté de quitter le terrain pour devenir animateur. J'étais devenu animateur de Tous pour un, puis ensuite La Facture, que j'ai commencé à écrire. Et auparavant, on a toujours l'impression, c'est pas d'être invincible, mais que c'est normal d'avaler tout ça. Et toutes ces images, tous ces personnages que j'avais pu rencontrer depuis le début de ma carrière, tout à coup remontaient et revenaient me hanter. Et au fond, sans avoir eu recours à des spécialistes, parce que comme dit Céline, quand on revenait de l'étranger, on nous disait « ça va, bon, très bien, excuse-nous, on a un autre job ». Et on respire avec ça. Et moi, ça m'a personnellement permis d'écrire mes trois premiers romans, qui sont tous... tout ce qui est là-dedans est vrai, sauf l'histoire. Alors, c'est peut-être une façon de s'en sortir aussi.
Et nos reportages, pour terminer là-dessus, nos reportages, le fait que jour après jour, on soit obligé quand même de raconter ce qu'on a vécu, d'essayer de... Je pense que c'est aussi... un peu thérapeutique, oui. Parce que chaque jour, on met en mots, en images, il faut qu'on raconte ce qu'on a vécu. Alors, c'est sûr qu'il y a une partie de ça qu'on garde, oui, pour nous, mais je crois que ça nous aide beaucoup à continuer, en fait, jour après jour.
Ce qu'on n'écrit pas ou ce qu'on ne met pas en onde, c'est ce qui n'est pas d'intérêt public, parce que nous, il faut que ça soit d'intérêt public. Mais des fois, l'intérêt personnel s'accumule, et puis on le voit chez nos conjointes, nos conjoints, chez nos enfants, tout à coup, que nos silences, les intrigues, et puis, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans. S'il y a des deuils à faire, il faut les faire. Et puis, moi, depuis 2 ans, je suis revenu sur le terrain, puis je suis très content, ça doit être réglé. Alors, je vous remercie beaucoup, je vous encourage. Écoutez, vous avez eu droit à... Vous avez eu droit à l'équivalent de 20 pages en entendant Céline et Michel. Il y en a 190 comme ça. Et c'est passionnant. Et je remercie Daniel d'avoir eu le courage d'affronter son conjoint publiquement. Bravo, Sylvain. Merci à tous. Et puis, mes collègues sont là, puis surtout Daniel, pour vous rencontrer, signer. Merci beaucoup.